Chers auditeurs, bonjour. Marie-France Guimard-Roche est heureuse de vous retrouver dans cette émission Histoire d'en savoir plus. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel, monsieur Olivier Delafont. Bonjour monsieur Delafont.
Bonjour.
Vous avez créé le parti Nouvelle France, que vous décrivez comme le grand parti de la vie civile, un parti apolitique. C'était à quel moment de votre vie ?
Alors au moment où j'ai créé ce parti Nouvelle France, au moment où le président ou le candidat Trump a décidé de se présenter à l'élection présidentielle américaine. C'était donc en mai 2015. Alors je lui ai envoyé un petit SMS parce que je connais M. Trump depuis 20 ans. Moi qui lui organisais ses réunions et ses meetings à Paris quand il était dans les affaires, homme d'affaires, pardon. Je lui ai envoyé un petit SMS et il m'a répondu tout de suite, Olivier, do the same, do it, go ahead, vas-y, fais-le.
C'est un encouragement indéniablement.
C'est un encouragement indéniablement parce que Trump, Monsieur Trump que je connaissais à l'époque depuis, bon, c'est quelqu'un qui est un gagnant. C'était quelqu'un qui a gagné dans beaucoup de domaines de ce qu'il a entrepris. Il a perdu à des moments. Il y a des moments, je l'ai connu à des moments où il était vraiment très très en perte de vitesse. Il y a beaucoup de dettes, mais il a remonté. Et il a écrit 5 livres qui sont très intéressants, notamment celui qui s'appelle The Art of the Comeback, l'art du retour. Comment revenir?
C'est l'histoire du coup de pied dans le fond de la piscine.
Mais oui, mais oui, parce que quand on est entrepreneur, et quand on n'est pas ni salarié, ni fonctionnaire, moi je n'ai jamais été salarié de ma vie. Je suis un entrepreneur, j'ai entrepris beaucoup de choses. Bon, quand on est. Bah, y a des moments dans la vie où ça ne marche pas. Il y a des moments où on est dans le rouge. Eh bien, c'est là, l'art du retour. Et son livre est très intéressant, il s'appelle The Art of the Comeback. Et ce livre m'a beaucoup impressionné. Je l'ai lu et relu plusieurs fois. Et il y a des tas de petites anecdotes, comment réussir dans les affaires, comment s'en sortir. Donc il faut toujours essayer de se raccrocher un petit peu à ceux qui réussissent.
Dans votre livre, De Gaulle, JFK, Olivier Delafont, Cherchez le lien, que vous avez fait donc en tant que candidat à la présidentielle 2017 avec le parti Nouvelle France, dans votre livre, donc, deux photos attirent l'attention. Ce sont celles prises pendant le déjeuner débat qui a eu lieu en 1996 au Maxim's Business Club, déjeuner que vous avez organisé pour que Donald Trump puisse rencontrer une centaine de personnalités, en particulier des grands patrons. J'imagine que c'est ce qui l'intéressait. Et il souhaitait donc rencontrer ces hommes d'affaires.
Oui, lors d'un voyage à New York, parce que bon, je dirigeais une entreprise américaine de gestion américaine pendant 15 ans aux États-Unis, et lors d'un de mes voyages, Monsieur Trump me dit, mais tiens, va voir ma secrétaire, va voir Norma Forderer, mon assistante, et je veux rencontrer des hommes d'affaires français. Alors donc, je ne me le suis pas fait dire deux fois. Et donc j'ai organisé, avec une centaine d'hommes d'affaires importants à Paris, trois déjeuners débats successifs.
Il y avait Olivier Giscard d'Estaing, d'ailleurs.
Il y avait Olivier Dassault, d'ailleurs, petite anecdote. Et puis, moi, il voulait les trois Olivier autour de lui. Alors à sa droite, il avait décidé de mettre Olivier Giscard, Olivier Dassault, et à sa gauche, c'était moi, Olivier Delafont. Bon, alors c'était amusant parce qu'à la fin, il me disait, mais pourquoi tu me mets toujours à côté de personnes qui ne parlent pas anglais? Aussi incroyable que ça puisse paraître, Olivier Giscard d'Estaing et Olivier Dassault ne parlent pas anglais. Ben, je lui disais, moi je lui répondais avec le sens de l'humour, ben, c'est pour que tu me parles moi.
Il aurait fallu qu'il rencontre déjà Bernard Arnault, je pense que ça aurait été mieux.
Ah oui, déjà ça aurait été pas mal.
Je pense que lui parle anglais.
Alors si vous voulez, c'était assez impressionnant quand j'y pense rétrospectivement, parce que bon, à la fin, au milieu du déjeuner débat, je me levais et je faisais un petit speech de 3 minutes ou de 5 minutes pour présenter l'orateur, pour présenter M. Trump. C'est moi qui présentais Donald Trump, qui est maintenant président américain. Donc, c'est bon, maintenant, évidemment, j'ai très peu de contact avec lui. Les messages que je lui fais passer, c'est par son bureau, on lui passe à la Maison-Blanche. Mais vous ne vous dérangez pas le président américain quand vous avez juste à lui dire salut.
Ça devient certainement beaucoup plus compliqué, certes. Ça, c'est sûr. Vous avez fait sa connaissance à New York en 90. Votre rencontre était fortuite ou bien vous espériez pouvoir rencontrer ce personnage, parce que c'en est un, c'est certain.
Alors, si vous voulez savoir comment j'ai rencontré, alors, moi j'ai des méthodes de fonctionnement qui sont tout à fait atypiques. De même que le Parti Nouvelle France est un parti atypique. De même que ma candidature est une candidature atypique.
C'est-à-dire comment faire. Faites par un homme atypique.
Faites par probablement un homme atypique. C'est-à-dire comment faire. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas de diplôme? Pas de diplôme, j'ai pas fait d'études, j'ai pas mon bac, j'ai pas mon certificat d'études, j'ai rien fait. T'es incapable de passer des examens. Mon père me disait toujours, de toute façon, tu finiras garagiste. Bon, alors, lors d'un voyage,
C'est un petit peu le cas d'ailleurs.
Oui, mais c'est ce que je disais. Un jour, je dis à mon père, papa, si je suis un bon garagiste, honnête et consciencieux, tu seras fier de ton fils. Pas de sous-métier.
Absolument.
Alors, je suis à New York, je descends au Plaza, l'hôtel Plaza, qui était un grand hôtel qui appartenait à Donald Trump à l'époque. Et puis, je passe dans une librairie et je vois un livre, il est marqué comme titre, « Do you really want to be rich ?» Est-ce que vous voulez vraiment être riche ? Alors moi, j'ai 34, 35 ans, je commence une carrière à New York dans la gestion américaine.
Et oui, vous vous dites, mais pourquoi pas ?
Mais bien sûr, j'ai envie d'être riche. Vous connaissez des gens qui n'ont pas envie d'être riche, vous ? Donc, tout bêtement, comme je n'ai pas fait d'études, bah, j'achète le bouquin, et puis je regarde, je le lis. Et ça me passionne. Et je regarde le titre de l'auteur, Donald Trump, je tourne derrière, roi de l'immobilier à New York, la mèche orange comme on connaît, le type a une bonne tête. Et puis un jour, je le vois passer au Plaza. Il était propriétaire du Plaza, donc je le crois. Je
m'approche. Il est très reconnaissable en plus.
Il est reconnaissable. Ouais. Il a une bonne tête. Il avait une. Bon, il était mince. Bon, il avait 25 ans de moins que maintenant, moi aussi d'ailleurs. Donc, je m'approche de lui. Je dis bonjour monsieur. Je me permets de vous présenter. J'ai lu votre livre, Do You Really Want to Be Rich. Et c'est un livre très intéressant qui me passionne. Ah, il me dit d'accord. Très bien. Et puis je le revois un mois après. Je serre la main. Je le revois toujours dans le lobby de l'hôtel parce que lui, Trump me disait toujours. Tu veux réussir en affaires, il faut être vigilant, be vigilant, soit ne laisse pas les détails. Et lui, il était dans son hôtel, propriétaire du Plaza, un énorme hôtel à New York, et il se baladait dans les allées, et il regardait tout, s'il n'y avait pas un papier qui traînait, s'il n'y avait pas une petite table qui n'avait pas été desservie, il était vigilant. En fait, il emmerdait le personnel. Je le voyais régulièrement, et puis au bout de 2-3 ans, un jour, je prends mon courage à deux mains, et je vais à la Trump Tower. Je ne le connaissais pas plus que ça. J'avais vu 5 fois, à chaque fois il me disait bonjour, comme il dit bonjour à 500 personnes par jour. Donc je vais à la Trump Tower, parfait, il me reçoit, et il me dit, tiens, puisque tu es là, organise-moi des déjeuners à Paris, je ne connais personne à Paris. Je veux vendre mon nouveau produit, mon nouveau building à New York. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et puis donc, on est devenu de fil en aiguille, on a lié des relations, je dirais pas des relations amicales, mais on a lié des relations... semi-professionnel, parce qu'en réalité, le président américain ne connaît personne en France. Je suis le seul Français qu'il connaisse. Je suis le seul Français, ça paraît étonnant.
Vous savez, il y a un truc qu'on dit finalement qui est très vrai, je trouve, c'est qu'il ne suffit pas d'être connu, il faut être reconnu. Et c'est ce qui s'est passé entre vous et Trump. Il vous reconnaissait donc.
Ah ben, il me reconnaissait à la fin. Et vous voyez, il est maintenant reconnu par les Américains, parce qu'il a fait son discours sur l'état de l'Union il y a deux jours. Vous savez, tout le monde se moque un peu de Trump, parce que c'est vrai qu'il a un look atypique, qu'il a une personnalité atypique, et qui va gérer l'Amérique de façon atypique. Donc il y a 50% des Américains qui ne sont pas contents. Et 50%, c'est dans toutes les élections, c'est pareil. Mais il faut le laisser faire. Et quand il a fait son discours sur l'état de l'Union il y a deux jours, c'était mardi soir, la nuit de mardi et mercredi, le lendemain, il y a eu la plus grande hausse de l'histoire de la bourse de New York. Le Dow Jones a pris 313 points avant-hier. Ce qui veut dire que...
Il avait changé de ton.
Oui, mais ce qui veut dire que les grands industriels, puis peut-être la finance aussi, pourquoi pas la finance, ont confiance en lui. Il va créer des emplois. D'ailleurs, il a déjà créé 1 million d'emplois. Il va empêcher les délocalisations. Donc c'est exactement c'est ce que je fais dans mon programme. Mon programme, je ne dis pas qu'il est calqué sur le programme de M. Trump, mais nous, c'est un programme d'entreprise. Ce n'est pas un programme de quelqu'un qui veut gravir les échelons politiques. Je ne veux pas gravir. Je veux faire le job. Et pour faire le job, il faut placer en France, à la tête de l'État, il faut placer un gestionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui sait créer des richesses.
Il est à l'origine, en fait, un petit peu de votre intérêt pour la politique.
Alors, je ne dirais pas que ce n'est pas un intérêt pour la politique, parce que je me suis déjà présenté au municipal, à la mairie de Sauvigny-le-Bois, là où j'ai une propriété dans Lyon, et je me suis présenté aux législatives, deuxième circonscription de Lyon. Et dans les deux cas, j'ai échoué parce que je n'avais pas derrière moi un grand parti, parce que j'étais un petit peu un électron libre. Or, les Français veulent voter pour les gens qui ont des grands partis derrière eux.
Bien établi.
Bien établi.
Depuis son élection, pour en rester avec M. Trump, il est très contesté, comme vous le savez, en France en tout cas, en Europe sans doute. Quelles qualités lui reconnaissez-vous ?
Alors, quelles qualités je reconnais dans M. Trump ? D'abord, il est un excellent communicateur. C'est un communicant extraordinaire et c'est un négociateur hors pair. D'ailleurs, je crois que ce sont les deux qualités qu'il faut pour arriver à réussir dans les affaires et puis à réussir son entreprise politique à la tête des États-Unis. Pourquoi ? Parce que lui, il a dit très justement dans sa campagne, il a dit « mais ça serait bien qu'on s'entende avec la Russie. Pourquoi on fait la guerre ? Regardez-nous en France, on a des très mauvais négociateurs. Nos dirigeants ne parlent même pas anglais. que vous ayez... Alors Chirac parlait un peu anglais, Sarko pratiquement pas, et Hollande n'en parlons pas. Comment voulez-vous négocier autour d'une table si vous ne parlez pas la même langue ? C'est pour ça que Trump, toutes les relations que j'ai eues avec lui quand il était simplement un homme d'affaires, eh bien, on arrivait à se comprendre parce qu'on est tous les deux des bons négociateurs. Moi, je suis aussi un excellent négociateur.
C'était votre métier.
Si vous voulez, je suis allé chercher des clients dans le monde entier, des investisseurs dans le monde entier. J'allais en Amérique du Sud, j'allais au Japon, je prenais mon bâton de pèlerin, exactement comme je fais là pendant cette campagne. Donc moi, j'ai des méthodes disruptives. Et pour répondre à votre question avec précision, Trump, d'abord, il a un nom qui est connu, ce qui n'est pas mon cas, bien que les gens connaissent le musée de l'automobile que j'ai créé, musée des voitures des chefs d'État. Il a une énergie à revendre, ce qui est mon cas aussi. Il a exactement le même âge que moi, donc on a beaucoup de choses en commun. Et puis, il est un booster, c'est-à-dire que Trump, c'est quelqu'un qui donne les grandes idées et il n'est pas girouette comme nos politiques. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit pendant sa campagne, il est en train de le faire. Et sans faillir, son mur avec le Mexique, le contrôle des migrants...
Le mur est déjà en partie réalisé.
Oui, mais il reste 1200 kilomètres qui ne sont pas faits. Mais c'est le principe, si vous voulez, que vous avez quelqu'un qui arrive là à la tête d'un État, qui a fait des promesses de campagne et qui tient. Ça, c'est surprenant. Et ça étonne beaucoup parce que ça n'a jamais été le cas en France.
Depuis son élection, donc il est effectivement très contesté, vous nous avez parlé de ses qualités... Et ses défauts ?
Alors ses défauts, c'est des bons défauts. Les défauts de Donald Trump, bon, il est mégalomane, mais pour réussir dans les affaires, il faut toujours mettre la barre plus haut que ce qu'on peut sauter pour réussir en règle générale dans la vie. Si vous dites, voilà, vous Marie-France, vous dites, voilà, aujourd'hui nous interviewons M. Olivier Delafont, candidat à la présidentielle, à la grande radio Grand Ciel. À ce moment-là, tout le monde va dire, ah oui, très bien, la grande radio. Si vous dites, voilà, nous sommes la radio Grand Ciel, une petite radio locale à Dreux, etc.
Pas du tout, nous sommes une radio départementale relayée sur Internet.
Voilà ce qu'il faut dire.
Ne pas oublier.
Voilà ce qu'il faut dire. Donc les défauts de Trump, c'est un peu la mégalomanie, mais c'est grâce à ça aussi qu'il a réussi. On le critique pour ses cheveux, on le critique, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez que il a beaucoup de dérision sur lui-même. Par exemple, il y a un mois, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il était président, il venait juste d'être élu président, il a traversé la rue avec des cartes du corps, il est allé à l'hôtel en face, son hôtel qu'il a créé récemment. Qui était l'ancienne post office de Washington, et il a été voir le directeur, il dit, tu vois, aujourd'hui, c'est moi qui vais faire le boulot. I'm going to do the job, je vais faire le boulot. Alors, tu vas me donner une veste de femme de ménage. Alors, il va au truc des femmes de ménage, il va dans une chambre, il passe l'aspirateur, président des États-Unis, il passe l'aspirateur pendant 5 minutes, il discute, je fais le room service. Alors, ok, la chambre 103, ils veulent leur petit déjeuner. C'est moi qui y vais. Alors, il met une veste blanche de serveur, et il frappe, et en fait, et tout ça est filmé, c'est extraordinaire. Donc, il a de la dérision. C'est un type qui sait, comme moi, on est pareil. C'est-à-dire qu'il s'engage lui-même. Il s'engage lui-même, il n'a pas peur, il est disruptif. Disruptif, j'en parle dans mon livre, c'est la disruption. C'est-à-dire faire les choses différemment pour réussir.
Sa fille Ivanka a un gros poste près de lui. Elle l'aide beaucoup, elle est très proche de lui, non ?
Je pense, oui. J'en sais pas plus, mais je pense que oui.
Non, mais j'essaie de voir quelles femmes peuvent trouver grâce à ses yeux. Enfin, je veux dire, il est quand même entouré de femmes.
Alors, bon, qu'est-ce qu'on lui reproche sur le plan de la misogynie ? Bon, on lui reproche d'avoir un jour dit une phrase absolument horrible. Bon.
Absolument. Pour rester sur Trump, votre livre a été imprimé en septembre 2016. Or, vous écrivez, je vous cite, que le phénomène Trump sera difficile à stopper parce qu'il est l'expression d'une volonté populaire. D'abord, vous étiez persuadé qu'il serait élu, et cela dès avant septembre 2016. Mais en fait, que veut le peuple ? Comment se fait-il que vous étiez certain de son élection ?
Alors, je vais vous dire pourquoi je suis certain de mon élection, parce que tout le blabla et tout le bruit qui tournait autour de la candidature Trump, de même que qui tourne autour de moi quelquefois, il n'en a jamais tenu compte, lui, le candidat Trump. C'est-à-dire qu'il avait sa vision, il avait sa méthode de travail, et il n'écoutait jamais. D'ailleurs, c'est un petit peu un défaut qu'on lui a reproché, de pas trop écouter les conseillers. Il écoutait 90% de lui-même. Et en réalité, moi je vois bien, comme il répétait, il a été élu parce qu'il répétait toujours la même chose. Le mur, les migrants, les jobs, l'emploi, les trois autres. Il a répété sans arrêt. Si vous regardez ses discours de campagne, et il a été aussi élu parce qu'il a une, une méthode d'expression très particulière. C'est-à-dire qu'il finit toutes ses phrases par un mot avec une ou deux syllabes. Par exemple, il dit, vous remarquez, il dit toujours nanana, no good, pas bon, pas bon, deux syllabes.
Vous l'écrivez aussi dans votre livre d'ailleurs.
Bien sûr. Et il ne finit jamais ses phrases par quatre syllabes. Il finit jamais une phrase par exemple, on va dire California, California, quatre syllabes. Il finit jamais. Donc tout ça est très étudié. Alors.
Par un coach ou par lui-même?
Alors ça, je ne sais pas, mais en tout cas, parce que je ne suis pas assez proche de lui, mais en tout cas, oui, certainement, il a dû avoir beaucoup de gens qui l'ont aidé autour de lui. Mais en fait, sa vision, il l'a poursuivie pendant toute sa campagne, contre vents et marées, et moi j'y ai cru parce que je connais le personnage, mais c'est vrai qu'à des moments, j'y ai plus cru. Parce que je voyais qu'encore quelques jours avant, quand vous pensez qu'il y a 343 journaux aux États-Unis qui étaient contre lui et 6 qui étaient pour lui, quand vous pensez que dans la nuit de l'élection, 2 heures avant, je me souviens très bien, on disait, Reuter a dit qu'il y avait 96 chances sur 100 pour que ce soit Hillary.
Et il en restait 4.
Il en restait 4, donc il ne pouvait pas gagner. Ah ben si, il a gagné. Il a gagné parce que, en fait, il s'est adressé à la masse populaire. C'est-à-dire que la masse populaire, c'est l'Américain moyen. Il ne s'est pas adressé, comme Hillary Clinton, à la côte Est ou à la côte Ouest. Il s'est adressé au centre des... Moi, je connais bien l'Amérique. Hein. J'ai traversé l'Amérique en voiture.
Vous avez travaillé à la fois à Los Angeles et à New York.
Oui, à Los Angeles surtout. Le siège de la société dans laquelle j'étais senior vice-président était à New York, bien sûr, parce que toutes les grandes sociétés de gestion sont à New York. Mais il s'est adressé à l'Amérique moyen. Donc les Américains moyens ne sont pas plus bêtes que les autres. Il n'y a pas de job, il n'y a plus d'industrie aux États-Unis. Dans le sens. Lui, il s'est adressé à eux, il a dit, voilà, moi je suis un homme d'affaires, j'y vais pour faire le job, je vais faire revenir les entreprises, je vais taxer ceux qui délocalisent, et ils vont venir. Et d'ailleurs, il a déjà fait revenir plus d'un million de jobs. Et il a avec lui un gouvernement qui est pratiquement issu de l'entreprise, si vous regardez bien. Il n'y a pas vraiment de politicards professionnels comme on aurait en France. Donc c'est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de mouvement qui est en train de se passer, qui se passe aux États-Unis et qui va bien sûr se passer en Europe. Il faut savoir que ça va avoir une influence sur l'Europe, sur cette élection en France. Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a un mouvement qui est initié tout par des États-Unis. Le chewing-gum, le hula-hoop, le micro-sillon, le rock'n'roll. Donc ça va arriver en France.
Il est pragmatique, en fait.
Ben, il veut des résultats. Et en fait, il est pragmatique, bien sûr. C'est ce que veulent les Français. Les Français vont voter à cette élection pour des candidats qui ont obtenu des résultats. Or, il n'y a aucun candidat actuellement sur l'échelon des grands candidats, l'échelon politique qu'on nous présente, qui a obtenu des résultats. M. Fillon n'a pas obtenu de résultats, excusez-moi. M. Macron n'a pas obtenu de résultats. Prenons, moi je suis un pragmatique venu de l'entreprise, je ne suis pas un politicien. Prenons la courbe du chômage, la courbe du déficit sous Macron ou sous Fillon, ben c'est pas bon.
On va revenir à votre château, le château de Montjalin. Vous l'avez sauvé, en fait, ce château. Vous l'avez trouvé en quelle année?
Alors, le château de Montjalin, en réalité, mes parents avaient une maison en Bourgogne, à Saulieu, à côté de... à Saulieu.
Bon, belle région.
Belle région, c'est connu, Saulieu, grand restaurant. Et puis, je commençais à collectionner les voitures de collection avec des tout petits moyens à l'époque. Et mon père me disait toujours, qu'est-ce que c'est que ces vieilles bagnoles, que ces vieilles carcasses? Donc, quand je me suis marié avec Patricia, on était tous les deux des fous de château. Et on a dit un jour, on avait 34, 35 ans, on aura un château, on aura des chiens, on aura des vieilles voitures. Voilà, c'est comme ça. Bon. Et puis, un jour, on a trouvé cette vieille ruine. En vente pour rien, pour le prix d'un parking à Dreux. Et donc, je l'ai acheté, c'était en 1987, exactement, j'avais 40 ans. Je l'ai acheté et là, je l'ai fait inscrire à l'inventaire des monuments historiques. Et là, on a lancé une grande campagne de travaux, 27 entreprises. Et ensuite, j'ai installé le musée des voitures des chefs d'État.
J'imagine 27 entreprises locales, en outre.
Ah, que locales, oui, justement. On est le premier château développement durable de France. C'est-à-dire que j'ai eu à cœur de prendre des entreprises uniquement dans un rayon de 30 km autour. Parce qu'en fait, je voulais prouver, si vous voulez, que les entreprises régionales, locales, que le régional, le local, est aussi valable que d'aller prendre un architecte à Paris, une entreprise à Paris.
Vous avez sans doute été quand même obligé de prendre un architecte des bâtiments historiques.
Alors, non. En fait, l'architecte des bâtiments de France est un monsieur qui supervise les travaux des parties du château et de la propriété qui sont classées. C'est-à-dire que quand on a refait le crépi, eh bien, l'entreprise de crépi a fait plusieurs essais de plusieurs couleurs et l'architecte des bâtiments de France arrive un jour.
C'est lui qui valide.
Il passe une heure, il dit non, ça c'est trop jaune, ça c'est trop gris, ça c'est trop machin. Donc, en fait, on n'a pas pris d'architecte, je vais vous dire, pour tout vous dire. Parce que quand vous reprenez un monument, quand vous reprenez un château, appelons les choses.
Il est déjà structuré.
Il est structuré.
Il existe.
Il y a des volumes. On ne change pas les volumes. Il ne faut pas changer les volumes. Sinon, le château n'est pas classé. Parce que l'intérêt d'un château classé, justement, comme il est ouvert au public, c'est de montrer un bâtiment tel qu'il était au moment de la construction, sans aucune modification. Et donc ça, c'est ma passion pour les vieilles pierres, ma passion pour les vieilles voitures. Donc une fois que le château a été restauré en 1991, eh bien, on a ouvert au public le jour du patrimoine. Et là, comme vous le voyez dans le livre, à la page 78, on a battu le record absolu de fréquentation pour un monument privé.
C'est un beau succès.
En Bourgogne. Oui, il y a le certificat du ministère de la Culture. Vous voyez, le ministère de la Culture qui m'écrit ce jour-là, le 20 septembre 1993. Message ministère de la Culture. Cher monsieur Delafont, je ne trouve pas de mots suffisamment forts pour commenter votre performance exceptionnelle réussie ce week-end au château de Montjalin. En effet, votre château, mais aussi votre collection de voitures présidentielles, a connu, tenez-vous bien, la plus forte fréquentation enregistrée pour un monument privé en Bourgogne pour cette 10e édition des Journées du Patrimoine. Seule l'abbaye de Cluny, monument appartenant à l'État, a fait à peine mieux que vous. Et quelques cathédrales. Oui, alors ça, j'étais très fier parce que recevoir 2500 personnes dans un monument privé, c'est très compliqué. On a réussi. Il faut prévoir la logistique. Il faut prévoir la sécurité. Il faut que les gens soient contents. C'est-à-dire que 2500 personnes qui veulent rentrer dans un bâtiment, même si c'est un château, ben c'est pas possible. Donc il faut faire des groupes de 100, 120 personnes. J'ai organisé tout ça. J'avais des gens qui les faisait patienter autour des voitures. On leur racontait des trucs. Et donc c'est très amusant d'arriver à gérer un gros chose. Exactement comme moi, je suis arrivé à gérer un énorme portefeuille de gestion financière à la Bourse de New York. J'ai créé une méthode de gestion, alors qu'au début, j'étais pas armé pour ça, j'étais armé pour gérer un petit portefeuille de clients qui investissaient 20 000 euros dans un fonds d'investissement. Ben non, là, j'ai réussi à créer une méthode qui m'a permis de gérer, et c'est ça ce qui a fait mon succès, qui m'a permis de gérer des milliers et des milliers de clients avec des centaines de millions de dollars dans ce fonds d'investissement.
On va, pour terminer cette première émission, parler de votre première voiture, celle qui a été la plus importante, sans doute, celle de Kennedy.
La voiture de Kennedy, c'est une voiture qui a changé ma vie, mais ce n'est pas ma première voiture. Ma première voiture, c'était quand j'étais stagiaire dans une boîte d'import-export à la SCAC Marseille, et j'ai acheté une dauphine pour 15 euros ou pour 20 euros. Elle était toute cabossée, mais je m'en foutais. C'était l'histoire de...
C'était la plus belle.
Oui, vous quittez papa-maman, vous avez votre premier chèque de fin de mois, vous allez vous acheter une bagnole. C'est génial, vous avez 18 ans, vous êtes libre, c'est extraordinaire. Donc voilà. Alors ensuite, bon... je suis passionné par Kennedy depuis le début, depuis mes plus grands enfants, depuis l'âge de 15-16 ans. Figurez-vous que quand j'écoutais, j'avais 15-16 ans, j'écoutais les discours de Kennedy sur des 33 tours. D'ailleurs, si vous venez au musée, madame, vous verrez, il y a encore des 33 tours, des discours de Kennedy, et j'enregistrais la voix de Kennedy, j'enregistrais son énergie. Et c'est ce qui m'a aidé à réussir dans la vie. Donc, j'étais un fanat de Kennedy depuis toujours. Bon, il est arrivé l'assassinat. Et je me suis dit 20 ans après, mais cette voiture de l'assassinat, mais elle est extraordinaire. On l'a vu sur les films, une espèce de grande limousine décapotable, ce pauvre président dont la tête explose en direct devant une caméra, c'est épouvantable. Qu'est-ce que c'est que cette voiture? Eh bien, figurez-vous que j'ai retrouvé cette voiture. Je l'ai retrouvé et je l'ai fait venir. Je vous raconterai une autre année, une émission, on pourrait faire une émission là-dessus. Et je l'ai fait venir donc dans ce petit village de Lyon qui s'appelle Montjalin et qui n'a même pas de café-tabac. Il y avait là, c'était le début de, c'était en 1991, c'était le début de ma collection de voitures présidentielles. Alors c'est très compliqué faire venir la voiture de Kennedy dans un petit village de Lyon, parce qu'il faut lui faire traverser l'Atlantique, il faut les autorisations du gouvernement américain, il faut passer la douane en arrivant en France, c'est un énorme véhicule qui tient pas dans un conteneur.
Plus de 6 mètres.
qui est historique. Alors justement, oui, 6,75 m de long, 6,75 m de long. Donc moi, j'adore ce genre de challenge. J'adore les missions impossibles. J'adore tout ce qui est irréalisable. J'adore quand on dit, mais non, mais tu n'y arriveras pas, mon pauvre. C'est impossible. Ça, c'est
une petite annonce dans un journal de Floride, vous avouerez que quand même, c'est un peu étrange. Hein,
petite
c'est...
annonce. Alors justement, je crois en Dieu. Alors, c'est peut-être compliqué de dire dans une station de radio qu'on croit en Dieu, mais je crois en Dieu, je crois qu'il y a des forces supérieures qui nous gouvernent et qui nous aident dans la vie. Et je pense que le fait que, mon parcours de vie a croisé cette voiture, que j'ai eu l'énergie... C'était pas une question de moyens, parce qu'elle était en vente à 25 000 $, la voiture de Kennedy. Que j'ai la réactivité de l'acheter en moins de 3 minutes, parce que quand je l'ai vue dans cette petite annonce dans un journal de Floride, je me suis pas posé la question. Un Français se serait posé la question. Est-ce que c'est la vraie? Ah, la voiture, mais c'est pas possible. Moi, Olivier Delafont, j'ai décidé que c'était la vraie. Je décide. Je suis un homme qui décide. J'ai décidé que c'était la vraie. Alors, je l'ai fait venir. Ça a pris 2 ans de la faire venir dans ce petit village de Lyon dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, j'ai fait un travail d'authentification qui était encore plus amusant que l'acquisition de la voiture. C'est-à-dire que je suis allé aux archives américaines. Je suis allé à la Maison Blanche. Je suis allé à l'usine.
Vous aviez de toute façon sur le moteur, j'imagine, un numéro de série, quelque chose de
tangible. Il y avait tout ça, mais c'était pas suffisant. Il a fallu délivrer à cette voiture un certificat d'authenticité, comme un expert pour un tableau va délivrer un certificat d'authenticité. Alors moi, j'ai créé les certificats d'authenticité pour les automobiles de collection. C'est moi qui ai créé ça. C'est-à-dire qu'on me présente souvent des voitures et il y a un certificat que je délivre ou que je ne délivre pas avec un certain nombre d'experts qui sont autour de moi. J'ai créé ça. Pourquoi ? Parce qu'on a suffisamment de connaissances dans le domaine de l'automobile ancienne pour savoir si c'est une réplique. Il y a beaucoup de répliques maintenant. Hein. Donc la voiture de Kennedy, j'ai passé des années, et je me souviens, j'ai eu des anecdotes là-dessus. Je suis allé à l'usine de Cincinnati, là où ils l'avaient fabriquée. Je suis allé voir en fin de journée, à l'époque on pouvait rentrer dans ces usines, il n'y avait pas la sécurité qu'il y a maintenant, donc je suis rentré, je prenais les ouvriers les plus âgés, je me suis dit tiens celui-là il a 65 ans, il va partir à la retraite, il va pouvoir me raconter comment il a fabriqué la voiture de Kennedy, une partie, ou comment ils l'ont démontée après l'assassinat, comment ils l'ont modifié après l'assassinat, parce que la voiture a été assassinée, c'est l'objet du livre que j'ai écrit justement sur la voiture de Kennedy, qui s'appelle La voiture nous livre ses secrets, j'ai écrit un livre sur tout ce que je sais sur la voiture de Kennedy. Parce que finalement, on dit, vous savez, moi j'ai quand même été un pionnier dans ce domaine, parce que quand j'ai créé le musée des voitures de chef d'État, personne ne voulait en entendre parler. Le gouvernement, le ministère de la Culture, me dit, mais écoutez, les voitures de De Gaulle, tout le monde s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est l'action du général De Gaulle. Il dit non. Un homme politique gravit les échelons jusqu'à l'échelon suprême grâce à la voiture. Et je vais vous le montrer dans ce musée. Effectivement, dans les voitures de De Gaulle, on voit, il y a énormément de photos, de documents. On voit De Gaulle debout dans la voiture, dans la Simca présidence immatriculée 4PR75. On voit le président Kennedy, grand communicateur, comme le général. Donc c'est grâce à l'automobile, en se tenant debout dans les voitures, qu'ils ont gagné des voix. Je ne dis pas que c'est... Il y a aussi leur programme, bien sûr, mais l'automobile de chef d'État a joué un rôle considérable dans les années 60, jusqu'à Bill Clinton, à peu près, si vous voulez. Non, jusqu'à l'assassinat de Kennedy, un peu avant Clinton, parce que après l'assassinat de Kennedy, on a commencé à faire des voitures blindées. Mais avant, ils étaient tous les chefs d'État étaient dans des voitures découvertes. Donc ils traversaient nos villes et nos villages de France. Il suffit d'aller voir le musée de Montjalin et vous verrez les centaines, les milliers de documents, comme nous étions heureux. Mais comme les Françaises étaient heureux de voir passer dans cette belle voiture le général de Gaulle dans nos rues de province. Et donc les femmes disaient « Ah, oh, il est beau le grand Charles, on va voter pour lui ». Alors évidemment le vote des femmes est arrivé, mais je veux dire... Si on reparle de la voiture de chef d'État en tant qu'outil de communication, c'est un outil de communication extraordinaire. Et moi, en tant que conservateur, fondateur du musée automobile des voitures des chefs d'État, eh bien, pendant 10 années, je m'asseyais dans les voitures. Je me disais, tiens, là, je suis à la place de Kennedy.
Et que pensait-il à ce moment-là, assis dans cette voiture ?
Je vois ce qu'il voyait. Je m'assieds à la place du général de Gaulle. Je sens ce qu'il sentait. Vous vous mettez à la place du personnage. Et au fond, je me suis dit un jour, j'ai tout. Sauf que je ne sais pas de quel pays je voulais être le président. Alors maintenant, avec cette élection présidentielle, avec cette candidature, je sais définitivement de quel pays je vais être le président.
Donc nous allons aborder ce sujet donc dans une prochaine émission. Je vous remercie d'être venu nous trouver,
merci
monsieur
beaucoup,
Delafont, de si loin, Bourgogne-Dreux, waouh.
Merci
C'est
beaucoup.
Une petite trotte. Chers amis, nous vous retrouverons bien sûr avec Roland Richard qui enregistre cette émission. Cette émission sera réalisée par Émilie Glory. À bientôt. Au revoir.